Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Chaque été, l'écrivain Pierre Bergougnou passe un mois de vacances dans sa maison de la Haute-Corrèze, au Borde, non loin du plateau de Millevaches. Réveils matinaux, sculpture de ferraille, pêche à la truite, lecture et écriture sont au programme de ses journées de vacancier qu'il raconte dans ses carnets de notes publiés chez Verdier. Le 4 juillet 2012, Christine Le Cerf lui rendait visite en Corrèze et s'entretenait avec lui de ce temps suspendu où l'humeur enfantine, pour ne pas dire infantile, comme il le dit joliment, reprend ses droits. L'émission, diffusée pour la première fois tout juste un mois plus tard, le 5 août, donne une furieuse envie de pêcher, de se promener, d'observer les insectes, en un mot, de partir en vacances, en emportant quelques livres de Pierre Bergougnou dans ses valises.
Figure libre.
Pierre Bergougnou, l'écriture en vacances. Une émission de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau.
Ça, ton atelier, alors?
Oui. Comment? Oui, c'est des clapiers. Et ça me sert maintenant de casier de rangement pour mes petits produits.
Vous dites que ce qu'on fabrique, la plume à la main, ça diffère pas vraiment des autres travaux, que finalement on a toujours devant soi un matériau plus ou moins rétif.
Par exemple, le fer, oui, dont la ténacité est extrême, ce qu'il recommande pour toutes sortes de travaux utiles.
Vous passez combien de temps par jour dans votre, ce que vous appelez votre atelier ou ce que Montaigne appelait son arrière-boutique?
Je commence à 6h du matin ou 5h, j'arrête à 9h du soir. 9h du soir, c'est 21h. 21 moins 5, 16 heures.
Est-ce que c'est ce que vous appelez la sidérothérapie?
Exactement. Les corps humains ont besoin de fer. D'ailleurs, ils charrient du fer, puisque notre sang, c'est du fer. Alors que si, par exemple, révérence parlait, nous étions des limaces, nous utiliserions le cuivre, puisque le sang des limaces est vert. Donc j'ai un bon rapport avec le fer, parce que ça me maintient en joie et en santé. Ça me décrasse la cervelle, ça me délivre au moins en partie de l'espèce de mélancolie à laquelle on ne peut pas ne pas être sujet lorsqu'on se collette avec des idées qui continuellement nous rappellent l'infirmité, la labilité de notre esprit.
Pierre Bergougnou est né en 1949 en Corrèze. Depuis près de 30 ans, il tient scrupuleusement un journal.
La pince de masse.
Ses carnets comptent aujourd'hui plus de 3500 pages réunies en 3 volumes. L'été est une période particulière pour Pierre Bergougnou. C'est le moment pour l'écrivain de quitter sa maison de Gif-sur-Yvette dans la banlieue parisienne pour se mettre au vert, retrouver le grand air et les racines de son enfance.
Attention aux yeux.
Nous l'avons rejoint un après-midi de juillet dans son atelier de Davignac, où il ferraille jusqu'à 10 heures par jour quand il ne bat pas la campagne pour une chasse effrénée aux insectes. En sa compagnie, nous ouvrirons quelques pages estivales de ses carnets, ainsi que ceux de Montaigne, Barthes, Hanke, afin d'explorer ces moments de trêve où l'écriture se met en vacances. Pierre Bergougnou, l'été, pour vous, ça commence de manière assez précise à la fin du mois de juin, au début juillet?
Oui, le 1er ou le 2 juillet.
Mm.
Et ça prend fin le 1er août. Ou même, parfois, aux dernières heures de juillet.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, c'est une sorte de non-saison aux portes de Paris.
Mm-hmm. Alors, il faut se préparer pour partir en vacances.
Matériellement, oui, effectivement, un certain nombre de choses à emporter.
Mmh.
Et j'ai depuis toujours un pense-bête sur lequel je garde un œil pendant que de l'autre, je bourre le coffre de la voiture.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre?
Ou des millions de choses. Nécessairement, quelques livres et du papier, parce que bon... C'est une habitude que j'ai prise et que je garde même lorsque je reviens ici. Et puis, beaucoup de matériel, par exemple, pour travailler le fer, le bois aussi, des sornucies circulaires, un rabot électrique, des électrodes spéciales, ce qu'on appelle les tire-fonds. Qui sont de fortes vis à tête hexagonale, des bouts de papier ultra secrets sur lesquels j'ai tracé certaines figures que je pense pouvoir exécuter lorsque je serai à pied d'œuvre.
Mm.
Mes médicaments, mon traitement. Enfin bon, j'ai ma liste et ça m'occupe, mettons un après-midi avant que tout ne soit prêt,
mmh.
et que je ne puisse revenir en quelque sorte au commencement.
Alors quand vous dites ici, Pierre Bergougnou, c'est où?
Ah pardon, eh bien c'est la Haute-Corrèze, c'est la partie haute de ce département obscur qui s'étend pour partir, enfin pour l'essentiel, sur le rebord occidental du massif central et pour son extrémité méridionale sur les confins du Périgord et du Quercy. C'est une région cabossée, c'est tout ce qu'il reste d'un massif très ancien, quelque chose comme 600 millions d'années, qui a été soumis à toutes les forces de l'érosion et qui s'apparente effectivement aujourd'hui à une succession ininterrompue sur des dizaines et des dizaines de kilomètres de mamelons verts piqués de vaches rouges. Alors, par exemple, tout autour, ce ne sont plus que des bois. Il va vous falloir parcourir une trentaine de kilomètres avant de trouver le premier champ. Dans l'intervalle, ce ne sont plus que des bois et de surcroît des bois mercenaires, c'est-à-dire des résineux à révolution rapide, 40 ans, qui sont destinés à la vente, puisque c'est le seul parti que l'on puisse tirer de ces mauvaises terres acides, mal ressuyées, etc., etc. Voilà. Donc j'ai vu un monde qui avait duré 20 siècles ou plus s'absenter, un autre s'apprête que je ne verrai pas, et nous sommes dans l'entre-deux. Alors pour prendre un exemple très concret, cette maison près de laquelle nous conversons d'une voie de salon et que nous occupons très exactement 4 semaines par an, est occupée pour le restant de l'année par toute une faune à laquelle il nous faut, chaque fois que nous revenons, la disputer. Alors, quelques exemples. Dans les caves, il y a des salamandres qui sont des sortes de bijoux barbares et vivants. Sous la pierre de seuil, il y a une vipère. Le grenier est infesté de guêpes et de chauves-souris. Dans l'atelier, il y a un rouge-queue qui m'invective. Je ne sais trop si je puis dire de quel nom d'oiseau il m'affuble. Lorsque je pousse la porte pour les chercher, pour les fourgonner dans mes réserves de fer. Il estime que ce lieu est à lui et que je suis devenu en quelque sorte un intrus.
Et ça, vous le consignez?
Et ça, je le consigne parce que j'ai le sentiment très, très vif d'être en quelque sorte l'hôte, l'habitant de cette période de transition qui a vu un monde s'en aller très rapidement, alors qu'il avait tenu le pays pendant des siècles, des millénaires, tandis qu'autre chose, je pense, le règne des grands bois, comme à l'origine, s'apprête, oui.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, Pierre Bergougnoux, qu'il y a dans vos carnets d'été?
Oui, sans doute. Sans doute. Il y a sous le triple rapport d'abord de l'objet, c'est-à-dire la vieille, la verte campagne corrézienne, de l'humeur ensuite, qui est enfantine, pour ne pas dire infantile. Enfin, de la facilité relative avec laquelle les choses migrent sur le papier ou affleurent à sa surface, oui, une prose estivale, des carnets d'été. À quoi s'opposerait la prose sombre des mois d'hiver, où on est enseveli dans des travaux, dans des recherches difficiles, qui continuellement nous mettent le désespoir au cœur, parce qu'on n'est pas du tout assuré à aucun moment de n'être pas inégal à l'objet qu'on s'est assigné.
Juillet. Matinée radieuse, dorée. Je pars, filé au point, explorer le bord de la route. Dans un châtaignier plus ou moins carrié, je recueille trois nymphes de cétoine. 4 juillet. Levé à 5 heures. Le temps se remet. Nuages et soleil. J'associe par couple, en série, des fers de vache, confectionne une tête songaille. 5 juillet, réveillé à 6 heures par Paul. La journée sera belle. Course à Meymac où j'achète de la colle à bois, puis rapide expédition aux bordures de la Soudeillette. À 7 heures du soir, sur le plateau, les moucherons noirs me dévorent. Le seul moyen de les tenir un peu à l'écart est de laisser ma cigarette se consumer à la commissure de mes lèvres. À la fin, il fait presque nuit.
'est-ce qui peut vous arriver, Pierre Bergougnoux, d'une virée sur le plateau de Mille Vaches, par exemple?
Un million d'ennuis, tous plus graves les uns que les autres. Par exemple, me noyer, faire un petit malaise, ça m'arrive parfois, et dégringoler dans le ruisseau. Alors, il a beau n'être pas profond, ça suffit largement.
Vous avez souvent rêvé de noyade? La vôtre ou celle de votre père?
Oui, oui, une vieille hantise, quelque chose d'obscur, dont je ne suis pas certain de connaître bien la source, si l'on peut ainsi parler, oui.
Il faut dire que les eaux sont parfois très noires.
Les eaux sont noires ici, elles sont chargées de tourbe. La Haute-Corrèze est un pays sombre. Je notais que... elle drape le deuil, comme on disait au XVIIIe siècle. Par exemple, les bois sont vert bouteille. La pierre est grise, les eaux sont noires, la bruyère est mauve. C'est véritablement les couleurs du deuil. Et pour ajouter une ultime touche à cette sensation obituaire, funèbre, les larmes d'argent des ruisseaux.
Dans vos carnets, Pierre Bergougnoux, il y a un moment presque inaugural. C'est ce moment où vous êtes sur le plateau de Mille Vaches dans votre voiture. Vous vous apprêtez à pêcher, le soleil n'est pas encore levé, et sur une facture de vidange, vous griffonnez quelque chose au stylo bic. C'est la version brute de ce que nous, lecteurs, nous allons retrouver dans vos carnets.
Oui. Oui, c'est un geste sacrilège, parce que les gens de notre sorte n'ont pas qualité à écrire. Curieusement, il fallait un endroit... sauvage, pour en quelque sorte faciliter, permettre, tolérer un acte empreint lui-même de sauvagerie. Un sauvage tendait une main criminelle vers la plume et le papier qui étaient restés
jusqu'à cet instant précis, eh bien, des instruments dont il n'avait pas l'usage. Ou alors, si d'aventure il se hasardait à en user, il lui fallait compter avec le ridicule retentissant dont il serait instantanément frappé.
Mmh. Et vous vous souvenez de ce que vous avez noté sur cette facture de vidange ce jour-là ?
Étrangement, j'essaie de ne pas y repenser. Il y a un certain nombre de souvenirs particulièrement déplaisants que, à mon insu, je m'applique à contourner. C'était un moment douloureux parce que j'avais le sentiment d'attenter à la loi non écrite qui excluait les écholiers limousins, je cite Rabelais, de l'accès à l'expression appuyée sur la lettre de la vie.
Mmh. Donc, il y a d'autres endroits ici où vous avez écrit sur le papier de peur de tout perdre.
Oui, mais ça ne concernait que des faits d'ici. Il se passe infinité de choses étranges, mystérieuses dans ces campagnes désaffectées.
Tiphaine Samoyo.
Je pense que c'est l'expérience de lecture, une des expériences de lecture les plus fortes que j'ai faites dans ma vie, et je ne comprends pas encore entièrement pourquoi, mais si je cherche à l'expliquer, c'est peut-être parce que c'est une lecture que j'ai toujours attendue, c'est-à-dire une lecture qui occupe la totalité du temps, du temps du lecteur, comme ce qui est raconté occupe la totalité du temps de celui qui raconte. Et cette totalité est une expérience limite, une expérience sans doute que j'attendais de la lecture, et d'une certaine manière, je continue à me demander comment c'est possible.
Oui, vous dites même que vous vous étonnez de lire les carnets de façon presque addictive, alors que c'est un livre foncièrement inintéressant, dites-vous.
Oui, on ne peut pas dire que ce qui retient le lecteur, ça soit la quantité d'événements ou les surprises. Au contraire, c'est cette absence de surprise, cette espèce d'uniformité lisse, ce retour des jours qui est fascinant. Et c'est proprement fascinant parce que c'est la matière même de notre existence qui est là tissée, et comme sa trame. Hein, et tout ce que l'on peut vivre par ailleurs se fait sur ce fond-là. Et c'est l'accompagnement suprême, c'est-à-dire que la lecture comme accompagnement, il est là, c'est-à-dire qu'on a l'espèce de base, le socle, la chambre, à partir de quoi la vie est possible, l'événement, ce qui peut nous arriver. Et la très grande force, je trouve, de Bergugnu, c'est de ne pas nous dire voilà à quel point ma vie est intéressante et ce qui la rend particulière. Mais voilà à quel point ma vie est commune et ressemble à la vôtre, et que c'est ce commun-là qui forme la matière du livre, et rien d'autre, en réalité. Alors que c'est quelqu'un, Pierre Bergugnu, qui n'est pas comme tout le monde. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a publié une quarantaine de livres, qui est, selon moi, un grand écrivain, quelqu'un qui pense incroyablement la littérature, le monde, la politique, l'enseignement, enfin, toutes sortes de choses qui sont singulières, sur lesquelles il a une pensée singulière. Et pourtant, c'est pas cette singularité-là qu'il veut nous montrer. Les grands lecteurs de ce journal sont tous comme moi, c'est-à-dire ressentent cette fascination-là, qu'ils expliquent, à mon avis, de cette manière-là, de cette capacité que ce journal a à nous montrer ce qu'il y a de commun dans nos vies, dans notre... Et ça fonde quand même un être ensemble. Mm-hmm. Ce qui est très particulier dans ce journal par rapport à tous les autres journaux d'écrivains, il me semble sans exception, c'est que il ne traite de rien qui ne soit pas intimement vécu. Donc les événements du monde, ce qui arrive à d'autres, ce qui peut survenir dans un temps extérieur et qui auquel on est constamment confronté tous les jours, hein, les uns et les autres, n'apparaît pas dans le journal, dans la mesure où cela n'a pas été intimement éprouvé et vécu. Donc il y a une forte concentration qui vient de ce fait-là, qui vient de ce fait que tout ce qui est dit a été vécu et pensé intérieurement, et pas extérieurement. Et ça, c'est très singulier, parce que la plupart du temps, dans les journaux, il y a une alternance entre les deux. On rencontre quelqu'un, on dit comment on l'a trouvé, éventuellement comment il vit, etc. Lui s'interdit ce type de notation, de la même manière qu'il s'interdit d'évoquer les événements du monde. C'est très frappant lorsqu'on dit le dernier volume, qu'on ouvre à 11 septembre 2001 et qu'il évoque uniquement qu'il l'a vu comme tout le monde à la télévision. Il peut mentionner cela dans la mesure où il l'a vu réellement à la télévision, donc c'est la seule chose qu'il peut mentionner, mais il ne donne ni un avis, ni un commentaire. Et voilà. Et certains lecteurs pourraient considérer cela comme de l'indifférence à l'égard du monde. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est au contraire une leçon, c'est-à-dire ne s'exprimer que de façon concentrée, c'est-à-dire depuis l'intérieur de soi, dans les faits ou la réception que le monde a en soi.
Tiphaine Samoyo, on est frappé dans les carnets par un rythme, on pourrait même dire un partage, une division très stricte du temps.
Il y a effectivement de fortes coupures, mais comme elles sont réitérées chaque année d'une certaine manière, elles se diluent comme coupures entre 11 mois ou presque passés à Paris dans l'ordinaire de l'activité professionnelle et de l'écriture quotidienne, qui est aussi une discipline. Et puis le temps des vacances, le temps de l'été passé en Corrèze, où là les activités sont différentes. Mais ce qui est frappant dans ce journal, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les événements, entre les petits événements, les grands événements, les petites lectures, les grandes lectures, le mariage des enfants et la pêche à la mouche, cette uniformité fait que ces rythmes en quelque sorte s'harmonisent, enfin ne sont pas perçus, en tout cas par moi ou par les lecteurs, je pense, comme des disjonctions. C'est-à-dire que faire de la sculpture ou pêcher à la mouche et écrire paraissent une seule et même chose, au bout du compte. Je dirais qu'il y a une différence quand même entre l'été et le reste du temps, en tout cas entre la Corrèze et Gif-sur-Yvette et Paris, et qui touche au temps. C'est-à-dire que le temps est plus plein en Corrèze, mais il n'est pas plein d'avenir ou plein comme la plénitude pourrait être une promesse de quelque chose. Il est plein de temps passé, et la coupure fondamentale dont nous parle Bergougnou, cette coupure avec l'ancestralité, cette coupure qu'a connue le monde et qui ne ressemble à aucune coupure qui est connue jusqu'à l'humanité jusqu'à présent, c'est-à-dire la coupure finalement du lien de l'homme à la terre, qui n'est pas exprimé chez lui du tout de manière nostalgique, cette coupure-là est moins nette là-bas. Donc il y a bien une différence, et il arrive qu'on ait hâte qu'il parte en vacances. Moi, j'ai éprouvé ça parfois à la lecture, de me dire, tiens, encore 15 jours, il part en vacances, il va faire le coffre, il va partir à 5 heures du matin, et tout d'un coup, on va entrer progressivement. Il y a toujours des remarques comme ça sur la sortie de la banlieue parisienne, et quand tout d'un coup, hop, la nationale ou l'autoroute nous conduit déjà dans le pays. Et on suit ça avec une certaine passion, justement parce qu'on sait qu'on va trouver là un temps différent et un peu moins douloureux, sans doute pour lui.
Vous avez le privilège de fouler le plateau de Mille Vaches. Alors, l'étymologie, c'est Mille Aquas. C'est le berceau des sources, le pays des mille sources. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, c'est un désert vert. Il n'y a rien, il n'y a personne, que des arbres. De part et d'autre, du chemin caillouteux que nous suivons, eh bien, ce qu'on appelle les essences pionnières, à savoir l'aulne, le saule, le sorbier des oiseleurs et le bouleau, qui sont les premiers à s'avancer sur les mauvaises terres.
Tout près de nous coule une petite rivière, enfin plutôt un torrent, un ruisseau qui s'appelle la Dadalouse. Et nous sommes à moins de 1 km des sources de la Corrèze qui, comme son nom l'indique, est l'eau coureuse qui dévale les pentes de la montagne Limousine pour rejoindre sa sœur, la Vézère, en aval de Brive, après quoi elles vont se fondre l'une et l'autre pour atteindre la Dordogne, et puis de là, la mer.
Pourquoi vous avez tenu à nous emmener ici, à ce que nous marchions ensemble ici, au plateau de Mille Vaches ?
Eh bien parce que c'est un endroit qui est voué au silence, qui est enseveli dans l'ignorance et qui peut néanmoins servir de support, de cadre, de décor à une sorte de vie.
De vie ou d'expérience sensible pour l'écrivain que vous êtes ?
Pour moi, c'est la vie et l'expérience sensible sont sans doute une seule et même chose. Par l'effet des fatalités de l'heure et du lieu, je suis au sens strict du terme intéressé par ce qui se passe ici. Intéressé, excusez-moi, c'est le latin intersum. Je suis parmi. J'ai engagé mon cœur sans en avoir conscience dès le commencement. Et le temps aidant, je me suis avisé que ces choses me touchaient et qu'il fallait que je trouve avec elles un rapport qui soit véritablement satisfaisant, de manière à la fois pratique et, pour user d'un terme énorme, théorique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce donc qui peut me ramener à intervalles réguliers dans ces solitudes ? Qu'est-ce que j'attends d'elles ? Qu'est-ce qu'elles ont à me dire ? Qu'est-ce que j'ai à y faire ? C'est pour ça que j'ai pris la liberté de vous entraîner, vous qui venez de loin, de Paris, dans cette sauvagerie. C'est par ici qu'un oiseau m'a dénoncé auprès des puissances occultes qui tiennent désormais le plateau.
Ah bon ?
Oui. Il pouvait être 10h20, 10h25, au commencement de juillet. C'était l'heure intermédiaire entre le jour et la nuit. On voyait encore, mais on n'apercevait plus les détails. Et j'étais un intrus. Des mystères se préparaient dont les mortels n'ont pas à connaître. Et donc, l'esprit du lieu m'a dépêché un oiseau noir que je n'ai pas identifié. Et il s'est mis à tournoyer au-dessus de ma tête en poussant des cris perçants. Et de toute évidence, il me désignait à la vindicte du maître des lieux. Je ne me donne pas pour spécialement froussard. J'étais déjà un homme mûr, et pourtant je n'étais pas rassuré. Je me suis surpris à presser le pas et à couper au plus court pour regagner la voiture, et de là la civilisation.
Cette expérience, elle est retranscrite presque mot pour mot dans vos carnets, où elle fait à peu près 5 à 6 lignes.
Oui, je n'ai pas cru devoir épiloguer, mais le fait m'avait frappé si vivement que j'ai cru devoir prendre la peine de le mentionner. On est un peu à l'écart du monde, en dehors des structures à la fois spatiales et temporelles où notre vie se passe. Et j'ai noté qu'à un certain moment de la journée sur ces hauteurs, de certains faits se produisaient qui ravivaient en nous certaines dispositions d'un autre âge, des croyances archaïques dont on constate que loin que le temps, l'heure qu'il est, les est emportées, elles sont là, qui ne demandent qu'à reverdir, qu'à refleurir, qu'à repousser, faire repousser leurs fleurs vénéneuses. on apprend des choses sur soi.
C'est cette formule qui pourrait résumer l'exigence de la notation dans un journal, qu'on apprenne sur soi.
Oui, je pense à ce mot du vieil Héraclite. Nul homme n'explorera jamais en totalité le pays de son âme. Et il est manifeste que lorsque on s'écarte un petit peu des lieux où nos jours habituels se passent pour se transporter, par exemple, dans ces parages, eh bien, on découvre que, à la vérité, on est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on ne le supposait de prime abord, et qu'il y a en nous quelque chose qui peut faire écho à des sollicitations dont on s'est écarté, qui ne nous atteignaient plus, mais qu'elles reviennent, et une part de nous-mêmes qu'on pensait non pas seulement oublier mais abolie, revit. Donc je me surprends à rouler des pensées magiques, animistes, parce que c'est ici.
Pierre Bergounou, il y a ces notations sur ce que vous appelez la grande temporalité, mais elles côtoient des faits d'une autre nature, par exemple tous les livres que vous lisez, ou les amis que vous rencontrez, ou les ennuis que vous cause votre machine à laver. On a cette sensation que tout se vaut chez vous.
Oui, bien sûr. Je rapatrie dans ces solitudes de bons livres qui continuent de me tenir ce langage libérateur que j'escompte de. Mais il s'agit de secouer le fardeau du passé et de ne pas s'en laisser imposer par un certain nombre de partages qui valaient sans doute, mais qui sont devenus inappropriés à l'expérience neuve par la force des choses que nous faisons. Si on s'en tient à ce qui nous préexiste, on n'aura pas été les contemporains ni de soi-même, ni de son temps. C'est notre tour. Il y a une jolie formule de Michelet, Jules. C'est notre petit moment dans la lumière tiède. Je prétends être de mon temps. La possibilité m'a été donnée, ainsi qu'à mes petits compatriotes, de quitter l'enclave du passé dont nous étions, pour faire un mauvais jeu de mots, à la fois les hôtes et les otages. Il nous était donné, peut-être, de vivre au présent. Ce qui suppose, eh bien, qu'on s'efforce de distinguer dans cette heure fugitive qui est la nôtre, ce qui est important et qui ne correspond pas forcément avec ce que nos prédécesseurs ont posé comme tel.
C'est-à-dire, on peut retrouver les méditations pascaliennes de Bourdieu, une truite que vous ne parvenez pas à attraper.
Qu'il arrive parfois que je réussisse à attraper, et voilà. Dont je tire un très vilain orgueil.
Voilà. Et puis, quoi d'autre?
Mais le monde entier.
Le monde entier.
S'il est vrai qu'il fut un temps où ce lieu était entaché d'une sorte de funeste particularité. C'est un signe non équivoque de ce qu'une autre heure est montée au cadran de l'horloge, ou de l'histoire que des objets qui jamais n'avaient passé les frontières du département ou du canton s'y trouvent maintenant, et voisine avec ce qui subsiste du passé. Nous sommes entrés dans une autre temporalité. Il est permis à des pouilleux de ma sorte de former des pensées dont ils étaient, jusqu'à une époque toute récente, excommuniés. jusqu'à une époque récente, on ne pouvait pas demander au livre de nous seconder, soit parce qu'on ne parlait pas le français, on continuait d'être occitanophone, soit parce qu'on trimait comme des esclaves et qu'on n'avait pas une minute à donner aux volumes imprimés, soit parce qu'on était si pauvre qu'on ne pouvait pas débourser la somme pourtant modique, au prix de quoi on peut se procurer un livre in octavo. J'ai un exemple très précis. Dans les années 1880, un salarié agricole d'ici est payé 50 centimes par jour. Et un livre d'Anatole France, La rôtisserie de la reine Pédoc, par exemple, coûte 4 francs. Ce qui veut dire que le malheureux doit trimer pendant 8 jours pour se procurer un roman d'Anatole France.
Et aujourd'hui, est-ce qu'un salarié agricole peut se procurer les carnets de Pierre Bergugno ?
Le drame de la société actuelle est que la répartition des biens symboliques, des choses de l'esprit, est frappée d'une inégalité comparable, voire supérieure, à celle qui touche les biens matériels. Et que le moment n'est pas encore venu où les salariés agricoles parleront comme des livres et vivront comme des princes. Mais c'est quelque chose que j'espère farouchement.
Et le vent est en train de vous tenir quel langage ?
Eh bien, il me signale que si nous attardons sur ce chemin, nous risquons d'être trempés comme des soupes dans le quart d'heure qui vient.
Donc on y va.
Donc on y va.
Vos lectures, peut-être estivales, il y a un de vos voisins qui est cité plusieurs fois dans vos carnets. C'est le débonnaire Michel de Montaigne qui vous fait signe, à vous, le mélancolique corrézien. Alors
effectivement, c'est un voisin de l'opulente Aquitaine. C'est un obereau périgourdin. C'est un seigneur qui a bénéficié, comme tous les membres de cette caste arrogante, du surproduit engendré par le travail paysan, et qui, au lieu de gaspiller son loisir en fêtes vaines, en souci de paraître, l'a mis à profit pour s'enfoncer les yeux ouverts dans ce pays entièrement nouveau qui s'ouvre sous les pas de l'homme et qui porte un nom, le moi.
Est-ce que vous diriez cependant, Pierre Bergugno, qu'à votre manière, vous écrivez des essais, c'est-à-dire un seul et unique livre, une mémoire de papier? Et je citerai Montaigne, une mémoire de papier d'une âme toujours en apprentissage et en épreuve.
La comparaison est outrageante pour Montaigne, mais oui. Oui, il me semble que tout recroquevillé sur moi-même, courbé sur mon papier, je compose quelque chose à quoi le terme d'essai pourrait assez bien ou ne pas trop mal s'appliquer. Sachant que c'est avec 4 siècles de retard que les gens de ma sorte, c'est-à-dire de ma petite patrie, de mon petit pays, prennent acte de ce qui se passe, s'étant trouvé dans l'intervalle, dans l'impossibilité de le penser. J'appure les comptes. J'essaie. J'y mets tout mon cœur.
Je Jean-Yves Pouilloux, le désir de comprendre, y voir clair, est un véritable leitmotiv dans les carnets de Bergougnou. Et c'est peut-être une chose qui le rapproche très étroitement de Montaigne, qui avait gravé sur les poutres de sa librairie. Le désir de connaître a été donné par Dieu à l'homme pour son supplice.
Oui. c'est une formule qui est très mal reçue par l'Église traditionnelle. Elle vient de l'Ecclésiaste. Mais ça peut être d'autant plus intéressant que Bergougnou et Montaigne ont un rapport extraordinairement différent à l'égard de ça. Bergougnou est un être austère et qui a une sorte de conscience de consignation minutieuse et qui est, me semble-t-il, anxieux d'une perte, alors que Montaigne, pas du tout. J'étais très frappé, j'ai refeuilleté les je sais pas quoi, combien de pages du carnet. Je suis très frappé par cette sorte d'âpreté qu'il a à l'égard de lui-même, à l'égard de tout, qui est pas du tout la même du côté de Montaigne. Il n'y a pas d'âpreté avec Montaigne.
On pourrait même dire, Jean-Yves Pouilloux, que c'est par l'oisiveté, qui est une sorte de vacances, que Montaigne entre dans ses essais.
Ah, tout à fait, oui. Vous savez combien j'adore ce type. C'est un passage extraordinaire. C'est l'essai 8 du livre 1, et pas mal de personnes ont pensé que c'était qu'on pouvait le considérer comme une véritable préface des essais. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cet homme décide de laisser, de profiter de sa vacance, comme vous disiez, pour laisser son esprit vagabonder. Et que laissant son esprit vagabonder, il s'aperçoit que son esprit fait plein de sottises, est complètement insensé, et donc il enregistre les moments insensés, espérant, dit-il, avec le temps lui en faire honte à lui-même, c'est-à-dire espérant, en se relisant, découvrir à quel point il était tout à fait inadéquat, tout à fait sot par rapport à l'image qu'il se faisait de lui-même. Et ça, c'est une merveille, parce que c'est un pas, à mon avis, décisif, à mon avis, très rarement accompli, vers la lucidité dans le commerce de soi avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose que je crois Bergougnou est tout à fait étranger. Bergougnou étant dans l'enregistrement minutieux, le plus nu et droit possible de ce qui se passe, mais c'est un enregistrement au jour le jour, sans retour, si je peux dire. Le journal de Bergougnou n'est pas pour lui-même un objet de relecture pour une réflexion sur soi. Alors que pour Montaigne, absolument, et je crois que le terme de réflexion est tout à fait important, parce que ça veut bien dire, réflexion, ça veut dire y regarder à deux fois, si je peux dire. Ça veut dire pas seulement une fois, mais en me disant, nous sommes chacun opaques à nous-mêmes. Nous sommes chacun, nous vivons dans l'inconscience. Nous vivons dans la méconnaissance de nous-mêmes. Et comment trouver le moyen d'être moins inconscient par rapport à soi, pour vivre un peu moins dans la méconnaissance de soi? Et Montaigne trouve l'écriture.
On peut quand même s'imaginer Pierre Bergougnou dans son atelier ou dans sa chambre et Montaigne dans son arrière-boutique, tous les deux préoccupés et occupés à l'écriture régulière de l'examen de soi.
Bien sûr, bien sûr. Même s'il y a de grandes différences, hein, c'est évident que pour Bergougnou, l'écriture a une autre signification que pour Montaigne. Il faut aussi se rappeler que Montaigne, pour la plupart de son texte, ou pour beaucoup de son texte, le dictait, c'est-à-dire marchait dans sa librairie, et il y avait un scribe qui était en train d'enregistrer, et il dit bien encore enregistrer, ce qu'il est en train de dire, même si bien sûr après, avec sa main manuscrite, il agençait, il rajoutait, etc., etc. Mais c'est quand même un travail jour à jour. Bien sûr, pas tous les jours pour Montaigne, probablement avec moins de régularité ascétique que Bergougnou, Parce que pour Bérugnou, on sent, quand on le lit, qu'il y a une forme de discipline très grande.
Il parle de règles de fer.
Exactement. Alors que pour Montaigne, c'est pas du tout ça. C'est pas, on n'est pas dans la discipline. Montaigne fait ça quand ça lui chante et dans la mesure où ça lui donne du plaisir. Donc il y a quand même une différence de tonalité très grande. Cela dit, il y a une très grande ressemblance parce que écrire de soi nécessite. Montaigne dit, quand on parle de soi, on n'en parle jamais sans peine. Ce qui veut dire deux choses à la fois. D'abord parce que c'est difficile. Et deuxièmement, parce qu'on est toujours soupçonné d'être avantageux par rapport à l'image de soi-même. Et que la difficulté, c'est qu'on en dise du bien, qu'on en dise du mal, ce sera toujours de soi qu'on parle. Et d'une certaine façon, c'est ça qui menace l'entreprise, non pas autobiographique, mais du journal. Et ça menace celui de Montaigne, comme ça menace celui de Bérugnou.
Bérugnou, dans le coffre de votre voiture qui vous mène en vacances, vous dites que vous n'oubliez jamais les carnets, les crayons et les livres. Quelle est votre activité d'écriture l'été ?
Eh bien, tous les matins, mais ça vaut pour les autres saisons, je consigne. Parfois, ça, c'est un peu expéditif. La teneur de... du jour enfui, de la veille. Parce que si d'aventure d'autres événements, si menus soient-ils, s'interposent entre le passé pur qu'il est devenu et le présent frémissant de tous les possibles, je m'expose à manquer au principe d'authenticité, de véracité, auquel je m'efforce de me conformer. Nous avons à notre disposition cet instrument magique qu'est l'écriture. C'est de Jack Goody, l'anthropologue anglais. L'invention de l'écriture est l'événement le plus important de toute l'aventure de l'espèce humaine. De ce jour date une ère nouvelle, puisque infinité de faits qui se trouvent hors d'atteinte des cultures orales deviennent soudain accessibles à ceux qui ont la maîtrise de l'écrit.
Alors ce que je voudrais comprendre, Pierre Bérugnou, c'est ce qui distingue l'écriture à la peine, comme vous dites, au bureau dans votre banlieue parisienne, qui est une tâche difficile, pénible, quotidienne, et l'écriture ici, dans cette vie aérée, dans cette intermittence des vacances. Vous dites que vous êtes occupé des choses même.
Oui, parce que ce sont des habitudes que j'ai eues très, très tôt, de me servir de mes mains pour obtenir des choses, une certaine joie. J'ai toujours couru après des trucs et des machins. Au grand désespoir, par exemple, de mon père, qui souvent levait les yeux au ciel, qu'il prenait à témoin de ce qui n'était pour rien, dans les bizarreries dont j'étais affligé. Alors, par bonheur...
Vous parlez de mille passions.
J'ai toujours couru, par exemple, après les bêtes à six pattes, les insectes. Je n'ai pas souvenir d'un temps où je n'ai pas regardé avec une attention extrême des choses qu'on se contente d'ignorer ou d'écraser. Je ramassais des cailloux. Parce que j'étais curieux de savoir à quoi tenait l'extraordinaire diversité de la terre même qui nous porte. Je récoltais déjà des petits bouts de ferraille que je serrais jalousement dans mon placard ou dans mes tiroirs, les trucs que je trouvais dans les champs, le long des voies ferrées, en bord de route. Là encore, j'ai souvent le sentiment que les activités un peu bizarroïdes là, auxquelles je sacrifie du matin au soir ici, en vérité, ne sont pas tant le fait de l'adulte qui converse avec vous d'une voix de salon, mais du gosse insatisfait, malheureux, frustré, qui hait le vieux monsieur qu'il est devenu et qui lui demande enfin soit réparation, soit satisfaction.
Il s'agit vraiment de passion, parce que vous êtes à peine arrivé en Corrèze, Pierre Bergugnou, que vous sautez dans vos bottes.
Oui.
Vous enfilez la canadienne.
Oui.
Et vous parcourez...
Je bats la campagne.
Vous battez la campagne.
J'écume le bord des ruisseaux, parce que quand j'étais petit, j'avais du mal à attraper les truites. Alors j'ai appris. Et donc j'ai rendez-vous avec les truites vers 8h30, 9h du soir. Et bien, nous réglons un très vieux différent qui, jadis, tournait invariablement à leur avantage et qui, peut-être, aujourd'hui, eh bien, ne m'est plus aussi défavorable. Mmh. Je me vante un petit peu. Mmh. Ou encore, je rends visite à des gens, des récupérateurs de métaux, sur des casses, et puis je passe une longue et fatigante et parfois dangereuse matinée à chercher parmi les innombrables débris et rebuts de la civilisation métallique, eh bien quelque chose où il me semble deviner une forme belle, qu'avec un peu de travail on peut rendre évidente, patente, souveraine, oui. Je n'ai que 4 semaines pour apurer les comptes, voilà.
Pierre Bergugnou, c'est un de vos nombreux lieux de rendez-vous galants de l'été.
Oui, les truites sont là qui m'attendent. Et qui se réjouissent peut-être de ma venue, parce que chaque année, nous sommes convenus de nous retrouver pour disputer une très ancienne partie.
Alors, la pluie commence à tomber. Est-ce que c'est bon pour la pêche ?
Ça peut l'être.
Il y a tout un vocabulaire dans vos carnets bien précis. Vous piquez, ça gobe, c'est au-dessus ou pas au-dessus de la maille. Il faut...
Oui, c'est quand même assez simple. La maille est à 18 cm. Donc tout poisson qui n'atteint pas cette taille doit être remis à l'eau, ce que je fais scrupuleusement. Et puis les gobages, c'est lorsqu'il y a une éclosion d'insectes. Et on voit de très loin que les poissons prennent. Mais il arrive aussi qu'il n'y ait pas d'éclosion, et alors il y a une expression, on pêche l'eau. Il y a une dernière chose, c'est des eaux transparentes, cristallines, et le camouflage de la truite est une réussite si parfaite qu'on ne la voit pas alors même qu'on l'a sous le nez. De sorte que l'important, c'est l'acte de foi par lequel, chaque année, je dois me persuader à moi-même que les truites existent, sont. Parce que si je ne crois pas en leur existence, jamais elles ne se matérialiseront. Et lorsque j'ai réussi à me convaincre moi-même que, au mépris de ce que mes yeux me disent, des poissons sont, alors, et après que j'ai fait un certain nombre de gestes, comme leur présenter une mouche artificielle qui ressemble à un insecte naturel, elles daignent prendre la mouche, au sens strict du terme, et se matérialiser entre mes mains qui tremblent imperceptiblement.
Mmh. On a l'impression d'être devant une véritable leçon de poétologie pour être savant.
Non, vous êtes une fois de plus en présence de la résurgence de quelque chose qui est de l'ordre de la magie.
Est-ce que vous diriez que vous venez régulièrement ici, sur cette terre natale, pour y prendre une leçon de paysage ?
Oui, sûrement. Oui, il y a une leçon des choses. Chaque fois qu'il m'arrive de me retrouver là-haut sur ces landes de bruyères et de fougères et d'ajoncs, j'en conçois à la fois une sorte d'effroi, c'est énorme, et en même temps, oui, quelque chose comme... un peu de sérénité. Mm-hmm. C'est la leçon des choses, et qui s'oppose par exemple en tout point à celles que peuvent nous administrer les terres fertiles du Quercy. lorsqu'on s'est éloigné de quelques dizaines de kilomètres, on dirait qu'on s'avance dans une corne d'abondance. Partout, devant soi, les vignes, les vergers, l'exubérance tropicale du maïs, du tabac, du sorgho. La vie est non seulement possible, mais belle, plantureuse, grasse, c'est une fête. Mmh. Ici, c'est l'opposé. Mmh. Et tout ça parce qu'en dernier sort, on est ici sur les moins bonnes terres et que les bonnes terres de l'économie politique commencent à quelques distances de là.
Je vous parlais de leçons de paysage parce que j'ai à l'esprit ce moment dans les carnets où vous lisez Le poids du monde de Peter Handke.
Oui.
Et vous parlez d'une vision entomologique que vous partagez avec votre collègue autrichien.
Voilà. Et en même temps, tout me sépare de ce collègue autrichien. C'est curieux. Est-il besoin de s'apesantir sur la culture germanique ?
Non.
Non.
Alors cette attention, ces signes microscopiques, cette attention à l'infime, qu'est-ce que c'est qu'une vision d'entomologiste, vous qui pratiquez...
Je vais débiter du latin.
Ouais.
Alors c'est la formule que Linné a mise en exergue de la science des insectes, de l'entomologie. Voilà le latin, je vais traduire. Natura maxima miranda in minimis. Ce qui veut dire jamais la nature ne suscite une plus grande admiration que dans les plus petites choses. Non seulement les grandes lignes d'un paysage peuvent nous exalter au suprême degré, mais lorsqu'on focalise son attention sur les créatures imperceptibles qui le hantent, eh bien c'est une admiration peut-être plus grande encore qui s'éveille en nous, parce que chacune d'entre elles est revêtue d'une perfection, d'un éclat au-delà de quoi... On n'imagine plus rien. Mmh. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les insectes m'ont toujours intéressé. Parce que
plus qu'intéressé, vous exagérez. Vous les capturez, vous les embaumez, vous les enfermez dans des boîtes. Parfois, vous les libérez.
Vous êtes dure, mademoiselle de Serve.
Lorsque vous attrapez ici, sont plus généralement les papillons de haute altitude, dites-vous.
Il n'y a pas que... Bon, alors bien sûr, enfin, haute, non, les papillons de moyenne montagne.
De moyenne
parce qu'il y a
montagne.
D'autres papillons qu'on trouve, eux, dans les hautes altitudes et qui ne fréquentent pas ces parages. Mais il y a, par exemple, ici, abondance de ce qu'on appelle les carabes. J'ai attrapé ici une bonne vingtaine d'espèces ou de sous-espèces de carabes.
Ce qu'il y a de frappant, Jean-François Lapleny, c'est de savoir que des écrivains quasi contemporains, Handke est né en 1942, Bergugno en 1949, s'attellent à l'écriture répétée sur des milliers de pages, parce que l'un et l'autre ont des journaux et des carnets qui pèsent. Ça donne à cette forme qui est assez inactuelle de... du journal.
Alors, chez Handke, ce qui est intéressant, c'est que le premier volume porte le sous-titre français de journal, et pas celui qu'on attendrait en allemand de Tagebuch. Et Tagebuch, c'est un mot qui évoquerait plutôt la discipline quotidienne, de s'astreindre à noter les activités, le contenu des journées, même le contenu mondain, ce qu'on a chez Schnitzelin, ou des gens comme ça, qui effectivement notent avec qui ils ont déjeuné, avec qui ils ont dîné, ce qu'ils ont lu, etc. Je ne suis pas sûr que la forme du journal qu'ils utilisent, on puisse vraiment la comparer avec la forme du journal, justement, tel qu'on pouvait l'entendre anciennement, puisqu'il n'y a pas vraiment, ce n'est pas une chronique des jours. Si c'est une chronique de quelque chose, c'est une chronique de l'expérience sensible, c'est une chronique de quelque chose qui est justement en dehors du quotidien.
Est-ce qu'on peut parler, donc, Jean-François Lapleny, chez Handke, d'un journal d'écrivain ?
Oui, je pense qu'on peut parler d'un journal d'écrivain, si l'on entend par ce terme une trace du travail quotidien d'observation. qui fait, pour des écrivains comme Ranke, le point de départ de l'écriture. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on a, dans les journaux de Ranke, une masse absolument phénoménale de toutes petites observations ou de d'ébauches d'idées. Dans un de ses textes, il utilise d'ailleurs l'image de la chrysalide ou de la pupe de l'insecte, image qui évidemment a dû plaire à Bergugno, la pupe de l'insecte qui ensuite va pouvoir donner naissance à un autre organisme qui n'a pas du tout la même structure. Donc oui, ce n'est pas, et c'est peut-être pour revenir au début, enfin l'idée de départ, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne s'agit justement pas d'une chronique des jours, mais bien plutôt d'une chronique du regard, ou d'une chronique de la perception, ou même quelquefois d'une chronique de la pensée, qui n'a pas vocation à être document de l'écriture. Il ne s'agit pas de documenter la façon dont Ranke écrit, mais peut-être à donner finalement, ou à montrer toutes les pistes qui n'ont pas été prises, tous les chemins qui n'ont pas été, dans lesquels on ne s'est pas engagé.
Je crois que c'est dans le dernier tome du journal de Ranke, il y a cette remarque que, à l'autre bout du monde, même très très loin, il y aura toujours le désir du pays natal.
Oui.
Est-ce que c'est pas ça la grande différence avec Pierre Bergugno ?
Je pense que Ranke construit beaucoup de récits autour de ce retour et qu'il vit ce retour constamment sur le mode du récit ou de l'épopée, comme il dit à certains endroits de son journal. Effectivement, il ne s'y confronte qu'exceptionnellement. On n'a pas de récit du retour au pays natal. En revanche, on a un nombre incroyable de récits de voyage. L'activité du journal, pour Ranke, elle se termine après son grand voyage autour du monde entre 1987 et 90. Après 90, on n'a plus de journal à proprement parler sous la forme qu'il a publiée auparavant. On a, en revanche, des récits de voyage dont presque tous passe par un espace imaginaire que sont les Balkans. Et cet espace imaginaire, il est structuré par, de plus en plus fortement, au fur et à mesure des livres, par du récit. Des récits qui sont même des récits à plusieurs voix. Des récits qui sont portés par plusieurs personnages. On a l'impression que Ranke, après la grande aventure du journal, donc il mène entre 1975 et 1990, va en quelque sorte tirer les conséquences ultimes de cette réflexion justement sur le pays natal, le voyage et l'éloignement, et construire, plutôt que des ensembles justement de notations telles qu'on les a dans son journal jusqu'en 90, au contraire, des récits qui passent et repassent toujours par un espace qui n'est pas forcément réellement le pays natal, mais qui est un espace qui se construit comme un pays perdu. On n'a pas l'impression que Ranke veuille se confronter au pays natal, en revanche, il veut se confronter à ce récit du pays natal, à cette parole. Et c'est peut-être là effectivement une grande différence, qui est que ce désir du pays natal, pour Ranke, il va se matérialiser dans une géographie imaginaire, dans un certain nombre de récits, et pas dans les gestes quotidiens, et pas dans le réapprentissage, en quelque sorte, du corps, tel qu'on peut l'avoir quelquefois chez Bergugno, les gestes anciens. Donc on aurait deux façons très différentes de revenir au pays natal. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse pour Ranke seulement de le voir de loin. Il s'agit de construire le chemin qui y revient.
Juillet, debout à 4 heures. Le frigo qui gelait à cœur tout ce qu'on y fourrait paraît bien près de rendre l'âme. C'est au beurre que je m'en rends compte. Il avait la dureté de la pierre, et je le trouve presque mou. 19 juillet. Je passe l'après-midi dans Lévis Brûle, assis à la meule de pierre qui fait office de table dans l'ombre du tilleul. Les petits, armés du filet, pourchassent les papillons du jardin. Myrtille, citron, demi-deuil, tabac d'Espagne, sylvain azuré. Pas un bruit, le monde est loin. 28 juillet. Levé à 5h15, il va faire une belle et chaude journée. Je lis Lacan tandis que le jour se lève. Prodigieusement embêté par les mouches qu'attirent le bétail dans le grand pré. En milieu de matinée, à la déchetterie de Mémac, où je dépose une première fournée de vieilleries, gazinières, journaux, tuyaux, etc.
Pierre Bergougnou, une fois que toutes ces choses qui s'en vont sont prises en note, il leur arrive encore autre chose. Ces notes, il faut à leur tour les consigner. Une opération très fatigante et pénible, dites-vous.
Pas tellement. Pas tellement parce que j'écris au ras du monde sensible. Je touche aux choses mêmes. Je n'ai pas à aller très loin pour trouver l'explication. Les choses me parlent tout bas à l'oreille. Ça n'est pas exactement la même peine que lorsque, par exemple, on élève la prétention d'obtenir l'explication à un fait revêtu d'une plus grande généralité.
Comme la philosophie.
Comme la philosophie, comme certaines recherches auxquelles je me suis cru tenu, concernant, par exemple, cette chose énorme qu'est le récit. Je me rappelle le sentiment de détresse qui m'a étreint lorsque une petite voix perfide, diabolique, m'a suggéré que j'avais atteint un certain âge. Et que je n'avais plus aucune excuse pour me détourner de quelque chose qui me préoccupait depuis longtemps, et qui était cette chose que certains textes, certains récits, certains romans que j'avais lus me semblaient inadéquates à ce que tout simplement j'éprouve lorsque tout simplement je vis, tandis que d'autres textes, relativement récents, je pense naturellement à William Faulkner, me semblaient enfin restituer le vif de l'expérience. Alors, j'avais supposé que c'était là des faits qui dépassaient ma compréhension, que d'autres pourraient bien s'en charger. Et puis, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé l'explication à laquelle j'aspirais. Donc, après avoir réprimé un sanglot, eh bien, je me suis assis à la table de peine, au banc de nage de la galère. J'ai attrapé un crayon et un bout de papier. Je me suis dit, alors.
Alors, cette chasse effrénée, c'est vos mots.
J'ai dit ça.
Oui. Oh, cette oui. Pêche féroce.
J'ai également écrit ça.
Oui.
Mon Dieu.
Ces activités dans lesquelles vous excellez au fur et à mesure des séjours en Corrèze, est-ce que c'est une manière de se refaire la cervelle, comme vous dites, ou plus exactement d'acquérir une souplesse que vous allez pouvoir transférer à votre geste d'écrivain?
C'est une façon de refaire en accéléré la vie de l'instituteur de campagne que j'aspirais à devenir et que je n'aurais pas été. C'est la première chose. Comme s'il fallait récapituler la somme des possibles entre lesquels à chaque instant nous hésitons. Et qu'aucun d'entre eux ne doive demeurer irréalisé. C'est terrible. Il y a je ne sais trop quelle loi d'inertie du passé qui nous interdit d'abandonner quoi que ce soit en chemin. Je suis parti le crâne et le cœur farcis d'énigmes et de mystères et lourds de perplexités.
Oui, mais Pierre Bergugnou, pourquoi y revenir, telle une obsession chaque été?
Ne croyez pas que je sois incapable de légers progrès. Par exemple, ça fait 4 ans, je crois, que je n'ai pas décroché ma canne à mouche du clou auquel elle est pendue au grenier. Je n'ai pratiquement pas attrapé d'insectes depuis 10 années. Donc je fais des progrès, voyez-vous, à mesure que l'enfant qui me hèle là-bas du fond du temps, ou qui me tire, vous ne le voyez sans doute pas parce qu'il est invisible, mais il est juste là sur ma droite, et il tient ma manche. Et de temps en temps, il donne une petite secousse pour me signifier qu'il est en train de se passer quelque chose à quoi il est intéressé, et dont il aimerait bien bénéficier. Alors j'examine la situation, si je juge que sa demande est recevable, eh bien, j'exauce son souhait, et sinon, je le raisonne. Je lui dis, ça y est, ce compte-là a été apuré, l'affaire est réglée. Tu peux désormais passer à autre chose. Et naturellement, je recevrai toujours, avec une soumission aveugle, l'injonction que tu m'adresseras. Donc, je progresse, c'est-à-dire que j'ai cessé d'importuner les truites, à peu près les insectes, ce qui veut dire que je dois me rapprocher du terme ultime.
Est-ce qu'il y a un style particulier au carnet?
Il y a nécessairement un style, que nous le sachions ou non, le voulions ou pas, nous avons tous un style. Alors, d'un point de vue un peu général, le style, c'est une façon d'être, de voir, de dire et plus rarement d'écrire. L'écriture n'est jamais que la transcription d'une manière de voir, et j'ai connu infinité de gens qui étaient pleins d'esprit, qui avaient un style, des dames, et qui jamais n'écrivirent. Parce que ça faisait partie des choses dont elles avaient posé, ou dont on n'avait posé, qu'elles n'y avaient point accès. Et souvent j'ai regretté. J'avais un voisin qui était un conteur né, j'ai pensé à Walter Benjamin. Les paysans, les marins, sont des conteurs excellents. Ils nous faisaient récits mieux comme du monde. Mais jamais il n'est venu à l'esprit de confier au papier les récits merveilleux dont il lui arrivait d'enchanter une fin de matinée ou un début de soirée. Alors il y a quand même une dernière chose, s'agissant du style et de son mystère, sur laquelle le psychanalyste Lacan a attiré notre attention voilà moins d'une 50aine d'années. On est en 1966, et il vient de donner à la presse un recueil de travaux échelonnés sur une 30aine d'années, qui sont publiés sous le titre concis, énigmatique, décrit. Le style, c'est l'homme. En rallierons-nous la formule à la rallongée, l'homme à qui l'on s'adresse? Et un peu plus loin, ou 300 pages plus loin, on retrouvera la même chose dite autrement. C'est de l'autre que le sujet reçoit son message sous sa forme inversée. Et pour le coup, les écailles me sont tombées des yeux. Quelque chose dont j'avais confusément le sentiment, comme chacun d'entre nous. Et je me suis demandé, mais de qui donc est-ce que je reçois mon message sous sa forme inversée? Quel est l'homme à qui je m'adresse? La réponse coulait de source. Je m'adresse à la fillette de 9 ans ou au garçonnet de 11 ans que je fus, qui était gros d'infinité de questions, qu'il brûlait de faire aux adultes et dont il savait, d'une science sourde et triste, que, en raison du mouvement de bascule de la société française d'alors, les adultes ne pourraient pas lui fournir la réponse. J'ai vieilli, je crois. Le gosse que je fus, et qui n'est pas mort, puisque nous avons tous les âges, à chaque instant, ne cesse de me harceler de ces questions qui sont restées sans réponse quand ce fut le moment. Et l'adulte que je suis devenu et qui est comptable du gosse que j'étais, ne peut pas ne pas se tourner vers ce garçonnet, vers ses fillets, pour leur dire voilà, au nombre des responsabilités qui m'incombent aujourd'hui, il y a celle, eh bien, de vous prodiguer ces éclaircissements que vous n'avez pu obtenir lorsque c'était le moment, et lorsque vous les aurez obtenus, vous vous dissiperez, vous pourrez enfin, c'est une chose difficile à dire, vous conformer à la loi du temps qui veut que nous disparaissions, d'abord à chacun des successifs moments dont nos vies sont faites, et puis notre vie même, mais ce qui est de l'ordre du sens aura été accompli. Donc je m'adresse à une fillette ou un garçonnet, et ce que j'écris se déduit de cela, de ces petits interlocuteurs sous la dictée desquels je gribouille mon papier, que je suis resté un temps avant d'identifier, et dont je sais maintenant que c'est d'eux que je tiens mon message sous sa forme inversée.
Pierre Bergougnoux, c'est vers la trentaine que vous vous êtes aventuré dans l'écriture de vos carnets. Il y a un voisin aquitain que vous avez bien connu qui s'y est mis sur le tard.
Oui, c'est Roland Barthes, qui est originaire des Pyrénées-Atlantiques. Ça m'a un peu surpris parce que c'est un garçon qui, tout jeune, dès le milieu des années 50, sacrifie à l'humeur théorique qui a occupé les esprits pendant, je dirais, une quinzaine d'années. C'est les 60s. Voilà Tipa que Barthes, sur la fin de sa vie, sacrifie à ce genre de la chronique, du journal, et en particulier à ce moment de sa vie où il est touché au cœur par la disparition de sa mère avec laquelle il avait des relations très très étroites. Donc j'étais un peu surpris de voir paraître sous la plume de Barthes des choses qui étaient à peu près aux antipodes de ce par quoi il s'était recommandé à notre attention dès les années 50 avec ses célèbres mythologies et puis par la suite les textes ultra théoriques de la collection telle qu'elle. Et en même temps, peut-être parce que sa vie était très différente de celle que je mène, eh bien, je ne suis pas certain que les écrits autobiographiques qu'il a livrés vers la fin de sa vie aient rencontré dans mon cœur, dans mon esprit, un véritable écho.
En même temps, on peut être frappé par la solidarité entre tous ces Barthes-là. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il dit des choses très différentes, mais au sujet des mêmes préoccupations. Et
Marielle Massé.
La question des régimes d'existence de l'écrivain fait partie de ses préoccupations récurrentes. Alors le texte auquel on pense immédiatement, c'est L'écrivain en vacances, dans les mythologies. Un texte drôle, sarcastique, cruel, qui parle de la protection de l'image de l'écrivain par les médias qui continuent à sacraliser la figure de l'écrivain en le représentant protégé des loisirs prosaïques en vacances, toujours à sa vocation. Donc Gide lisant Bossuet sur le Congo, même si on imagine que c'est pas l'exemple contemporain que Barthes a trouvé immédiatement, c'est celui par lequel il commence son texte. Donc c'est un texte dur où on a du mal à percevoir disons, l'engagement de Barthes lui-même dans ces questions-là. Et en même temps, c'est le point de départ de toute une réflexion sur la rythmicité de la vie réglée, la vie consacrée, la vie vocationnelle. Et c'est ça qui revient justement dans les derniers cours, et notamment dans, dans celui qui s'intitule « La préparation du roman », où Barthes est très sensible à une réflexion sur le régime d'existence qui vient avec cette, cette disposition de soi-même comme écrivain. C'est un thème qui lui vient à la fois de Chateaubriand et de Nietzsche. Chez Chateaubriand, il a trouvé une expression qui lui plaît beaucoup, celle de la vie méthodique. Chateaubriand, dans son ambassade à Rome, disant « les Romains sont très frappés par ma vie méthodique, je leur sers à scander les heures ». Et puis ça lui vient surtout de Nietzsche, qui a renoué avec, avec tout ce thème de l'hygiène, de la diète, des modes de vie, des styles de vie, qui appelait ça une casuistique de l'égoïsme. Et Barthes est très sensible à ça, parce qu'il considère en effet que pour faire une œuvre, il faut régler sa vie, rythmer sa vie, scander sa vie, et la consacrer, et penser que ça n'est pas l'écrivain qui est sacré, ou qui est sacralisé, comme c'est le cas dans, dans L'écrivain en vacances, c'est l'œuvre à faire qui est sacrée.
Marielle Massé, Pierre Bergougnou se retirent rituellement en Corrèze. Est-ce que cette mise à l'écart, cet isolement, est une nécessité impérieuse?
Oui, elle est manifestement pour lui, ce qui donne sens à l'idée même qu'une vie est une forme qu'on a concertée, qu'on a choisie, et c'est la retraite, la réclusion, la concentration, l'écart, le départ qui sont le nœud d'un fragment que je viens de lire puisqu'il est, il est inclus dans un livre de Pierre Bergougnou qui vient de sortir, qui s'intitule « 30 mots », qui est une sorte de lexique à usage personnel. Et à l'entrée « style de vie », c'est justement la, l'exemplarité et la nécessité de cette réclusion qui sont présentées comme ce qui a précisément fait l'objet d'un choix. Et j'ai été très frappée par la, la sévérité, la rigueur de cette entrée « style de vie ». C'est un mot fétiche, le style, on y met des choses rayonnantes, lumineuses, complaisantes. Et ce que Bergougnou y met est d'un tout autre ordre et lui vient de l'expérience de l'internat. Alors, je n'ai plus varié, conclut-il. Et si quelque chose m'amuse un peu encore, c'est de recevoir avec une soumission aveugle l'injonction que m'adresse du fond du temps, des froids corridors du lycée de Limoges, un morveux de 17 ans. Il a édicté une bonne fois pour toutes des règles de fer. Non, il a trouvé bon le règlement du pensionnat qui nous prescrivait de rester toute la journée enfermée avec une pause à 4 heures. Je souris peut-être intérieurement, mais la promptitude, la déférence avec lesquelles j'obtempère me rappellerait, si j'avais oublié, que tout a changé alors pour ne plus varier. Et j'étais très, très frappée par cette sorte de, disons, de récit des origines, d'un style d'être, de, d'un régime de vie, d'une façon nécessaire de se tenir dans le temps et dans les choses pour se mettre à la disposition de l'œuvre qui est à faire, parce qu'elle tourne autour de ces thèmes, la règle, le règlement, la réclusion, la rythmicité, qui faisaient l'objet de la réflexion de Barthes dans la préparation du roman. Qu'est-ce qu'une vie d'écrivain si elle n'est pas égalée à une règle? Quelle est la différence entre la loi que je me donne et le règlement qui me viendrait de l'extérieur? Quelle scansion est-ce que je peux donner à mon existence, si ce n'est ce rythme qui n'est pas du fait de ma fantaisie ou de mon caprice, mais qui est le résultat de cette obligation d'écriture qui m'est enjointe, qui m'est formulée depuis l'extérieur? Et il y a là une façon très profonde, en fait, de reformuler tout le thème de la vocation, qui était un, disons, qui fait partie de la grande mythologie de l'écrivain sacralisé, voué donc comme un religieux à sa cause, mais voué ici par cette voix intérieure d'un enfant qui a trouvé dans les livres la, l'occasion et, la, et le motif même d'un arrachement à soi, et qui se répète à lui-même jusqu'à aujourd'hui, qu'il doit suivre ce chemin-là, qu'il doit continuer à se donner ces règles-là.
Lundi 28 juillet 2008. C'est à l'inquiétude triste des fins de vacances que je m'éveille. Je charge la voiture pendant que Cathy remet la maison en ordre. Jamais je ne ferai tout entrer. Il y a abondance de confitures, de porcelaine. Je laisse les barres de toit, des plaques d'inox soudées. Cathy prend le volant et je ne suis pas rassuré du tout. Nos maximes directrices sont aux antipodes l'une de l'autre. J'ai vécu, grandi, malheureux, divisé, dans un monde écartelé entre la vieille campagne et les prestiges lointains de la culture citadine, dans la petite bourgeoisie d'une petite sous-préfecture excentrée. Aussi loin que je remonte, je cultive une dissidence ouverte ou larvée, récuse, avec raison, les préceptes qu'on prétend m'inculquer, me paie de chimères, d'idées folles, forme des projets extravagants, sacrifie à des occupations insanes, voudrait savoir, entreprendre me changer, me condamne à des travaux sans fin, à un mécontentement éternel, au désespoir. Oui, c'est un mauvais moment toujours que celui où il faut repartir, dépouiller le personnage qu'on a pu composer ici, rêveur, actif, un peu insoucieux, et puis celui qu'on est devenu par la force des choses, au loin, occupé de travaux difficiles, courbé toute la journée sur un livre, ou occupé à gribouiller sur du papier, voilà, on aura eu deux vies. La première provinciale, retardataire, songeuse. La seconde, consciente, enfin du moins je le crois, occupée d'un certain nombre de tâches très, très précises. Voilà, c'est chaque année un moment quasi rituel que celui qui marque la bascule entre ici, c'est-à-dire avant, et puis l'ailleurs, c'est-à-dire l'après, puisque chaque lieu a son temps, et que passé les quatre semaines que je suis dans la verte campagne de l'enfance, d'autrefois, eh bien, il me faut à nouveau me transporter aux portes de la capitale, où se sera passé l'essentiel de ma vie seconde, le restant de mon âge.
Lundi 9 août, temps atone, sensation d'effacement, de lent affaissement, il n'y a plus de parfum, le merle s'est tu depuis longtemps. Je finis de piquer les insectes récoltés ces dernières semaines, dépouille le courrier et reprends lire et écrire de furet et aux ouf. Le temps qui s'était dilaté en Corrèze a repris son grain serré, sa fuite rapide, irréparable. À quelques heures d'intervalle, le contraste est sensible, à l'excès, entre l'existence mouvementée, les expéditions par pêche et combe, dans l'eau, les joies de rue, les cuisants revers, les fatigues physiques de juillet et la réclusion continuelle, toutes de hâte menue, contrôlées, avec des livres et du papier, à quoi se ramènent ici mes journées.
Et pour conclure, je citerai volontiers ce mot de Rousseau, « L'espérance du bonheur est tout le bonheur ».
Pierre Bergogneau, l'écriture en vacances.
avec Jean-François Lapleigny, Marielle Massé, Jean-Yves Pouilloux et Tiphaine Samoyau. Enregistrement Michel Gassic, mixage Philippe Thibault. Une émission de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 août 2012. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.